Patrice Gahou et ses invités dans le Club de la Presse, tous les jours, de lundi au vendredi, à partir de 11h sur Canal FM pour le débat.
Oh, shalom.
Production généralement de type artisanal.
C'est chemin faisant que les gens se retrouvent pour parler de ce qu'ils ont démarré, alors qu'il y a eu des vacances.
C'est pour soulager les femmes dans tous les secteurs, pas seulement que les portefeuilles.
Mais... Oui, oui, je suis d'accord. Mais j'ai dit pour le moment, il n'y a pas un vide, quoi.
On attend, et à une période de l'année, ça reprend. Rebelote l'année prochaine, rebelote, rebelote.
Par rapport à ce dossier-là, franchement...
Moi, je n'ai pas rencontré quelqu'un quand même.
Si vous ne bénéficiez pas d'une santé mentale, vous ne pouvez pas vous épargner, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas réfléchir.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Assalamu alaikum, shalom. Bonjour les tiens, les Havelais. Bonjour, nous sommes au studio en cette journée du mardi 7 mars 2023. Ils sont 11h, passé légèrement de quelques instants. Et nous vous saluons, vous toutes et vous tous qui êtes en ligne, que ce soit sur Canal FM en direct ici, ou bien sûr les antennes de nos médias partenaires qui nous relaient un peu partout au Togo, en Afrique et dans le monde. L'émission est réalisée par Datevi, Thomas et Jérôme Dakoucha. Autour de moi, deux confrères et une consoeur. Je vous annonçais que si le monde entier célèbre le 8 mars comme journée internationale de la lutte pour les droits des femmes, le Club de la Presse fait le devoir de recevoir au moins une femme tous les jours de cette semaine. Nous l'avons fait hier avec deux femmes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Christelle Dicko. Bonjour.
Bonjour Sas, bonjour à tous les auditeurs de Canal FM.
Et auditrices
aussi. Et auditrices, bien sûr.
Eh bien, Christelle Dicko, multitalent, mais celle que nous recevons aujourd'hui, c'est la directrice de publication de Daga Magazine.
Tout à fait.
Eh bien, à nos côtés, donc, Eric Hugues Pakoudjo Johnson, l'Union, bonjour.
Bonjour Sas, bonjour chers confrères, bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM.
Et Olivier Yao Adja, Arakiri, et puis...
Free Press,
bonjour.
Oui, bonjour chers confrères, bonjour Madame Christelle Dicko, bonjour aux auditeurs et auditrices, bonjour aux médias partenaires de... Et médias partenaires de Canal FM, de l'émission et Club de la Presse, vous les avez rappelés, vous allez les rappeler incessamment.
Merci. Olivier Yawadja, qui nous revient directement du Niger, où il a fait partie. Du Nigeria, où il a fait partie d'une mission d'observation à ces élections présidentielles, et avec tout ce qu'il nous ramène. De ce voyage, des cadeaux, justement, le cadeau, c'est le thème de notre pensée du jour. Quand le sage nous dit, Christelle, tu écoutes bien? Eh bien, le sage nous dit que le cadeau de l'amitié n'est jamais lourd. Il ne pèse pas car il est porté par le courant de la sympathie qui circule d'un cœur à un autre. Je te le répète, avec plaisir. Le cadeau de l'amitié n'est jamais lourd. Il ne pèse pas car il est porté par le courant de la sympathie qui circule d'un cœur à un autre. Voilà cette pensée du jour qui nous inspire durant cette émission où nous allons faire une large part à la célébration du 8 mars et surtout au numéro 28 de Daga Magazine. Numéro
24.
Je suis pressé, je vais un peu plus vite. Numéro 24 du Daga Magazine qui est encore tout chaud ou tout frais. C'est la main qui, c'est selon la main qui la tient. Et puis l'actualité chez nous ici au Togo que nous allons également parcourir. Mais Christelle, je voudrais que nous commencions par un vieux constaté. Tu sais, nous le savons que depuis quelques semaines, le gouvernement, s'appuyant sur les collectivités locales, est en train de mener l'opération de désengorgement de nos rues. tous ceux qui ont, tous ceux qui occupent la voie publique sont fermement invités à déguerpir. Pendant que nous menons cette opération de désengorgement, il y a une autre opération d'engorgement de nos rues, c'est les enfants. À tous les coins de rue, vous voyez des enfants qui débarquent de partout. Certains mendient, d'autres veulent vous laver la vitre de votre véhicule. Et c'est des enfants qui viennent de partout, de notre pays. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on y prend garde. Mais c'est un phénomène qui peut aller grandissant avec tous les risques que cela peut comporter. Christelle, un petit mot?
Oui, un petit mot, c'est un constat. C'est un constat que l'on fait et qu'on fait depuis longtemps. Et je pense dans plusieurs grandes capitales africaines. Et plus la capitale se développe, on a l'impression que ces phénomènes-là se développent aussi.
Oui.
Donc, le désengorgement des grandes artères, ça, malheureusement, on est obligé d'y arriver à un moment ou à un autre. Parce qu'il y a vraiment des débordements. Et je pense qu'il faut le faire, mais il faut savoir le faire. Parce qu'après tout, ça fait partie quand même de ressources financières pour certaines familles. Donc, il faut y aller et trouver des palliatifs. Il ne faut pas désengorger pour désengorger, à mon avis. Il faut peut-être les faire partir, mais il ne faut pas couper quand même cette source de revenus par rapport aux enfants qui abondent dans ces rues-là. Il y a pas mal d'associations, je crois, qui ont pris ce problème à bras-le-corps. Il faudrait peut-être les soutenir, ces ONG-là, qui voudraient récupérer ces jeunes et les former ou les encadrer, etc. Mais je pense que c'est par faute de moyens qu'elles n'arrivent pas à justement cerner tout le problème. Il faudrait peut-être les soutenir, en créer peut-être d'autres aussi, pour que ces enfants-là aient des repères. C'est parce qu'ils n'ont pas de repères qui sont dans la rue. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas assez de structures qui sont à même de les encadrer. Donc voilà, je pense que gérer le problème est une chose, mais trouver des solutions, c'est encore mieux.
Merci. Ces enfants de la rue, certains accompagnés de leurs parents qui sont là, certains vous demandent de l'argent, d'autres vous offrent de petits services. Aujourd'hui, ça ne gêne pas beaucoup, mais le nombre de ces enfants allant toujours grandissant, ça devrait commencer par nous interpeller. Ailleurs, en Côte d'Ivoire, on les appelle des microbes parce qu'ils sont sources, ils sont microbes, causant des maladies à tout le monde et à eux-mêmes. Aujourd'hui, Christelle en a appelé aux ONG, nous en appelons à l'État, mais nous en appelons également aux familles. Où sont les parents de tous ces enfants dont la place devrait être à l'école ou dans un centre de formation? Eric?
Oui, ça, Christelle parlait tout à l'heure des ONG qui manqueraient de moyens financiers pour s'occuper de ces enfants. Je voudrais juste appuyer en disant que ces ONG-là sont aussi débordées. Parce qu'il y en a beaucoup plus et aujourd'hui, ces ONG ne pourront plus prendre en charge tous ces enfants que nous retrouvons dans la rue. La deuxième chose, si je peux me permettre, puisque tu n'as pas encore dévoilé le contenu de Dagram Magazine, et qui dit le dialogue est un remède à l'incompréhension, a dit Madame Lydiane Amorin,
qui est l'invité spécial
de Dagram Magazine. Cela voudrait dire tout simplement que ceux qui occupent illégalement nos rues, pour les dégager, il faut véritablement discuter. Il faut discuter avec eux pour voir dans quelle mesure on peut maintenant leur permettre d'aller s'installer ailleurs. Est-ce que toutes nos communes sont déjà prêtes pour installer ces gens-là à de nouveaux emplacements? Je ne pense pas. Maintenant, si on veut désengorger les grandes artères et nos rues, parce que là, ce que nous constatons, c'est que les gens prennent juste leur conteneur d'un point à un autre et ce sont nos ruelles.
Ils déplacent le problème de l'encombrement.
Voilà. Et donc, il faut trouver une solution de façon générale à cette situation-là.
Merci Olivier. La place des enfants, c'est à l'école, dans le centre de formation. Un enfant qui se trouve dans la rue, ça peut se révéler un danger pour lui-même, un danger public demain, pourquoi pas?
Bien sûr, on l'a assez dit ici à votre micro que notre société doit mieux s'occuper de nos enfants. Bon, il faut nuancer en disant que la plupart ou certains aussi parmi ces enfants sont accompagnés de leurs parents pour, donc sont utilisés comme des guides hein, de certains mendiantes, etc. Donc, c'est aussi donc un phénomène de société auquel il faut s'attaquer. Mais l'enfant n'a pas sa place dans la rue. Ça, c'est une vérité donc que nous ne pouvons pas nier. Mais le problème vient d'où? Le problème vient essentiellement de la démission de certains parents qui sont prêts à faire des enfants, mais qui n'ont aucun projet d'avenir pour ces enfants. Il y a certains qui estiment que, oui, je peux faire un enfant, après la société, c'est à la société de s'en occuper. Et là, c'est...
D'autres disent encore, Maoula, ouais, que Dieu même va s'en occuper.
Si bien que, voilà, donc, ces enfants se retrouvent dans la rue et... Sincèrement, c'est d'abord un danger pour eux, comme vous l'avez dit, mais c'est un danger pour notre pays. Parce que nous formons, entre guillemets, des délinquants, je dis entre guillemets, mais vous verrez que ces enfants ont pris de mauvaises habitudes dans la rue, et le vol, le crime, ils apprennent ça dans la rue. Et avec le temps, vous les retrouvez en prison, et ils reviennent donc dans la société, et puis nous créons comme ça des dangers pour la société. Je ne vais pas dire que tous les criminels sont des enfants de la rue, non, pas loin de là, mais quand même, il y en a aussi qui viennent de là.
Merci. Et constat également, si vous circulez dans la rue, vous verrez que le nombre est toujours croissant et on constate que c'est des enfants qui ne sont pas seulement du Togo, mais qui viennent de plus en plus des pays voisins. Comment ils arrivent chez nous? Où sont les parents? Est-ce que les autorités en matière de sécurité d'immigration ont une idée exacte de ces flux de migration? C'est aussi
mais à côté de ce phénomène, je crois que il y a la question, ou bien il y a la décision que vient de prendre le maire de Kloto 1, Winnie Dobatier,
oui,
qui pas pour les enfants, mais il estime que voilà la ville de Kpalime
est
remplie de personnes souffrant de maladies mentales. Donc des maladies mentales. Donc il a trouvé une solution de les caser à quelque part pour d'abord les aider, mais aussi pour un peu donner plus de quiétude.
Le problème fondamental, c'est la prise en charge.
Absolument, dans notre pays surtout. Hein.
Parce que ceux qui souffrent des problèmes mentaux, c'est des gens qu'il faut véritablement encadrer. Ouais. Et donc, est-ce que nous avons des structures pour le faire? Est-ce que nous avons des médecins en nombre suffisant
et spécialisé
pour le faire? Merci. On va faire le débat là-dessus. Pour terminer, il n'y a pas longtemps, Accra, la capitale du Ghana, qui souffrait du même phénomène des enfants de la rue, le gouvernement du Ghana a trouvé les moyens de les ramasser de la rue. Nous en parlons en profonde, quitte à ce que les autorités, les spécialistes prennent ce problème à bras le corps avant que nous soyons débordés. Nous sommes le 7 mars et Christelle Dicko, demain ce sera le 8 mars, c'est la journée internationale de lutte des droits de la femme avec le thème cette année, le digital au service de l'égalité des sexes. Daga Magazine, qui paraît dans la foulée, ne peut pas ignorer cet événement et vous consacrez deux pages à la problématique du 8 mars. Christelle?
Oui, effectivement, en tant que magazine féminin, nous ne pouvons pas passer à côté du 8 mars et de la célébration de la lutte pour les droits des femmes. Et c'est normal que justement notre tribune y consacre une page pour expliquer un peu notre engagement justement pour l'épanouissement de la femme.
Et vous rappelez à bon escient que la journée du 8 mars a été instituée par les Nations Unies en 1975. C'était suite aux manifestations des femmes au début du 20e siècle en Europe et aux États-Unis. Ces femmes qui réclamaient de meilleures conditions de travail et le droit de vote. Et de là, nous revenons à cet autre article à la page 5. Quand Daga Magazine invite avec beaucoup de courtoisie mais de fermeté à la nécessité de repenser le 8 mars tel que nous l'observons chez nous de temps en temps.
Oui, effectivement, le 8 mars, je pense, est vécu différemment d'une culture à une autre. Hein. Je pense qu'il faut savoir que ici, nous sommes dans la culture africaine. Et nous, les Africains, pour nous rassembler, il faut qu'il y ait la fête. Mm-hmm. Donc, je pense que...
La fête, il faut, notamment voilà, le pagne.
Le pagne et tout ça.
Mais
c'est
bouffe et la
c'est
haine
ça.
Et
c'est les une, alcools. C'est une question de culture. Donc, nous, on se partage entre folklore et réflexion. Et on se dit, finalement, est-ce qu'il ne faut pas faire les deux ? Parce que le folklore ameute, et une fois qu'on les a ameutés, je pense qu'il faut, à ce moment-là, se mettre ensemble pour réfléchir. Mais pour moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui trouvent que le port de l'uniforme n'est pas adéquat pour cette situation-là. Le port de l'uniforme est très controversé, le 8 mars. Mais moi, je le soutiens. Je soutiens ça, parce que je trouve qu'à travers l'uniforme, on communique. On partage et on crée justement une uniformité. Nous sommes des femmes et ce jour-là, il n'y a plus de différence sociale, il n'y a plus de caste. Il n'y a plus la directrice générale et l'employé de maison. Il n'y a plus la vendeuse et la première ministre, je ne sais pas. Nous sommes toutes des femmes et cet uniforme-là est un code. Pour moi, c'est un code de rassemblement. C'est un code de dire qu'aujourd'hui, on s'unit pour une cause et une cause qui nous rassemble, nous toutes les femmes. Voilà.
Merci.
Après, effectivement, on réfléchit. Oui. On se met ensemble et on réfléchit. Pour moi, c'est les deux. Et c'est vrai, la nécessité de repenser. On a laissé un peu la question ouverte à la fin, mais je vous avoue que je suis pour justement ce rassemblement et cette force, cette unité ce jour-là pour de meilleures réflexions.
La fête, d'accord, mais se rappeler que c'est
voilà,
une journée qui est partie d'une lutte pour davantage de droits
tout
pour
à fait. Les femmes. Et la représentante résidente de l'UNFPA, justement, Madame Yagibou, l'a bien rappelé dans la tribune qu'elle nous a offerte à cette occasion du 8 mars-là.
Et voilà. Nous venons à l'éditorial, naturellement, intitulé « Honneur à vous, les dames ». Et il y en a de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Mais commençons pas, ou bien continuons plutôt avec l'invité spécial de Daga Magazine, qui est une notaire, maître Lysiane Amorin, qui exerce dans la profession notariale depuis 34 ans.
34 ans, oui. Maître Lysiane Amorin est la fille de maître César Amorin, qui est le premier notaire du Togo.
Oui.
Donc, elle a repris le cabinet de son père aux côtés de sa sœur. Et c'est vrai qu'elle nous a parlé.
C'est une famille de notaires.
Oui, c'est une famille de notaires, tout à fait. Elle nous a parlé de la profession notariale. Elle nous a parlé de son histoire. Et aujourd'hui, une jeune fille qui aimerait embrasser cette carrière-là a un modèle de femme notaire dans ce numéro de Daga Magazine.
Un long entretien que je laisse le soin aux auditeurs de découvrir. Mais l'une des phrases que vous avez mise en lumière et que Eric Johnson vient de nous rappeler, Maître Amorin qui dit que le dialogue est un remède à l'incompréhension. Nous continuons après l'invité spécial. Vous vous intéressez à différentes femmes de la chaîne du pagne et à la page 28, je trouve depuis les grossistes jusqu'au portefeuille, Daga Magazine met toutes les femmes de la chaîne du pagne en lumière.
Alors effectivement, sur cette double page de Daga Magazine, c'est vraiment une empreinte Visco. C'est Visco qui met à l'honneur ces femmes de résilience qui sont leurs partenaires depuis plusieurs années. Effectivement, en passant par des demi-grossistes, des vendeurs ambulantes, des portefeuilles, des stylistes. Visco a voulu, dans cette double page de Daga Magazine, faire honneur à ces femmes. Et justement, Daga reste justement ce vecteur de communication-là, cette porte ouverte à tous ceux qui veulent parler de la femme. Nous
et
donnons de la
comme
place.
Tu le disais tantôt, le 8 mars, quand les femmes se mettent en uniforme, c'est pour dire qu'il n'y a pas de présidente, il n'y a pas de ménagère. Alors avec Visco, pour le 8 mars et pour ce Daga Magazine, des grossistes jusqu'au portefeuille.
Exactement.
Tout le monde est en lumière dans Daga Magazine.
Exactement.
Maintenant, nous allons nous regarder dans le miroir. Olivier, Eric, pourquoi pas toi et moi-même.
Oui.
Quand Daga nous invite à lire cet article à la page 8, le mensonge dans le couple.
Mm-hmm.
Oui, Christelle.
Le mensonge dans le couple, il me ment tout le temps.
Ou bien elle me ment tout le temps.
Ou elle me ment tout le temps.
Oui.
Je suis d'accord. Elle me ment tout le temps, il me ment tout le temps. Qu'est-ce que je fais pour dans ce genre de situation?
Oui.
Voilà. Qu'est-ce que je fais quand mon conjoint me ment tout le temps? Quelles sont les limites du mensonge dans le couple? Et quelles sont les conséquences du mensonge dans les couples? Est-ce qu'une relation peut continuer une fois qu'on a découvert qu'on a été abusé, qu'on nous a menti? Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'il faut s'arrêter?
C'est des questions que je vous laisse, Christelle. Tu sais, oui, comment je suis innocent. Aucun innocent ne saurait jamais
menti. En tout cas,
menti.
Tu ne m'as jamais menti. Donc, ouais, on existe.
Alors, vous qui mentez beaucoup à votre conjoint, mm-hmm, ou bien à votre conjoint, mm-hmm, lisez l'article de Daga Magazine, mm-hmm, et peut-être que vous allez commencer par vous convertir.
Mm-hmm. Non,
oui, Eric.
On a la réponse.
Oui.
C'est réponse
tu,
de.
Tu as ta réponse.
Non, la réponse de Maître Amorin.
Oui.
Il dit le dialogue,
oui,
est un remède à l'incompréhension.
Oui.
Donc, un mensonge, lorsqu'on le découvre,
oui,
c'est une incompréhension qui arrive. Et donc, il faut dialoguer. Tout simplement.
Ça, c'est ta formule.
Ah oui.
Mais bien, madame,
je pense que, de toutes les façons, dans la majorité des couples, il y a un petit mensonge quelque part.
Merci.
Et que l'on découvre peut-être plus tard, mais faudrait-il se séparer pour un mensonge ou garder quand même l'essentiel de ce couple-là?
Nous parlons du couple, mais Dagan Magazine parle aussi du concubinage. Parce que nous vivons en couple, il y a certains qui sont passés, qui se sont mariés devant les familles,
mm-hmm,
d'autres sont passés à l'état civil,
mm-hmm,
d'autres même devant Dieu à la mosquée,
mm-hmm,
mais il y en a encore d'autres qui choisissent d'eux-mêmes de se mettre ensemble,
mm-hmm,
c'est ce qu'on appelle en français, en bon français, le concubinage.
Tout à fait.
Et Daga Magazine nous en parle aussi.
Oui, on en parle du concubinage parce qu'on se dit qu'au début, on considère ça comme une période de test.
Mm-hmm.
On se dit, bon, je vais venir tester, voir si je peux bien, on s'entend vraiment bien. Et cette période de test-là, justement, s'éternise.
Mm-hmm.
Et finalement, on se rend compte que c'est l'homme qui y trouve son compte au final parce que il se complaît dans cette situation-là et il ne régularise pas sa situation et c'est la femme qui est la plus grande perdante au final. Donc, on demande aux femmes de rester vigilantes et de ne pas tomber dans les pièges du concubinage.
À point de suspension, nous passons à cette vertu que nous recommandons beaucoup à la jeunesse.
Mm-hmm.
Il s'agit de l'abstinence, notamment, mm-hmm, sexuelle.
Oui.
Eh bien, Daga Magazine a enquêté sur l'abstinence sexuelle aujourd'hui.
Mm-hmm.
Comment est-ce que les jeunes vivent cela, Christelle?
Alors, j'avoue que j'ai été assez surprise parce que cette affaire d'abstinence-là, finalement, se résume à « je m'arrête au moment fatidique, mais je fais tout ce qu'il faut avant. » Et
tout
à ce moment, voilà, tout est fait.
Mais je ne joue pas le match.
Voilà, c'est ça. Donc là, je ne tire pas, marque pas de but.
Non, je joue le match, mais je ne marque pas de but. Ou bien je ne me fais pas marquer le but.
C'est ça. Donc, on a essayé de définir un peu les limites, déjà de comprendre ce qu'ils entendent par cette abstinence sexuelle-là,
oui,
qui finalement, ils trouvent vraiment des solutions palliatives, hein,
mm-hmm,
pour dire, ah, nous, on n'a rien fait, mais au final, il y a eu de gros débordements, je pense. Et il faut faire attention. L'abstinence sexuelle est une...
Et pourquoi pas de gros dégâts?
Voilà, et pourquoi pas de gros dégâts?
Mm-hmm.
Mais l'abstinence sexuelle est une... C'est un état d'esprit. C'est ce qu'il faut que les jeunes comprennent. C'est un état d'esprit. C'est-à-dire, je me retiens, je me préserve. C'est un état d'esprit. C'est pas... Je ne passe pas à l'acte, non. C'est ça, donc
merci.
On a essayé de
Daga Magazine fait découvrir d'autres personnes,
mm-hmm,
ce sont les aromantiques,
oui,
ceux qui n'éprouvent aucun sentiment amoureux.
Oui, ça existe, ça existe des personnes qui n'éprouvent pas de sentiments. C'est-à-dire, vous savez, quand vous devez rencontrer votre amoureux, vous avez les yeux qui brillent, vous palpitez un peu, les mains moites et tout ça. Il y a des gens qui sont avec leur amoureux comme s'ils étaient avec un copain de classe.
Mm-hmm.
Et donc, ils n'éprouvent pas de sentiments. Ils ne savent pas le déclarer ni le manifester. Voilà. Il n'y a pas de geste. Voilà. Mmh. Et ces personnes-là, on a essayé de comprendre comment ils fonctionnent, de façon à ce que chacun puisse repérer autour de soi s'il vit peut-être avec un aromantique, raison pour laquelle il n'y a aucune manifestation cas, de
je
rien.
Je peux t'assurer que ni Eric ni Olivier ne sont aromantiques.
Voilà. En tout cas, pas moi.
Eh bien, Dada Magazine, qui nous fait découvrir également ce tueur terrible des femmes, oui. Il s'agit de la terrible maladie de la fistule obstétricale.
Oh. Oui, ça, c'est une maladie vraiment... J'en avais entendu parler moi-même, mais lorsqu'on a décidé de faire un article là-dessus, j'ai été vraiment choquée par la détresse des femmes atteintes de cette maladie-là. Mm-hmm. En fait, c'est vraiment une communication anormale entre le vagin et le rectum. Vous imaginez ? C'est-à-dire que la femme, après un accouchement, elle perd sa vie, quoi. Oh. Et oui. Et souvent, dans les contrées reculées, ce genre de femmes sont carrément exilées du village. Oui. Parce qu'elles défèquent sur elles. Elles sont vraiment livrées à l'abandon. Alors qu'elles se soignent. Et l'UNFPA, d'ailleurs, œuvre beaucoup dans ce sens pour justement aider à cette prise en charge qui est très, très, très sensible. Vraiment, je vous invite à découvrir cet article sur la fistule obstétricale. C'est émouvant.
Ouais, j'ai reçu par deux fois des ONG qui aident à financer les opérations
pour restaurer ces femmes
victimes. Oui, alors, on va finir rapidement avec Dada Magazine qui s'est fait témoin des grands événements mm-hmm. comme la 10e édition de Togo mm-hmm. FIMO. Oui, mm-hmm. Il s'agit du Festival international de la mode.
De la mode au Togo, on a été présent, on a couvert le FIMO, on a couvert... justement des actualités et je voudrais justement qu'aujourd'hui Dagan soit proche de ces grandes actualités de la cité. C'est important et c'est ce qui se passe, on est sollicité et c'est avec beaucoup de plaisir que nous partageons les activités de la ville de Lomé.
Et vous avez également couvert le gala de charité de Women Night.
Il aura lieu le 11 mars. Oui, le 11 mars, voilà, ainsi que le FESMA qui aura lieu fin avril, début mai. Et on a couvert le Thanksgiving de Light Radio.
Justement, on va terminer par là. Le Thanksgiving mm-hmm. de la radio chrétienne Light Radio, mm-hmm. qui est mis sur la 93.9 FM, qui mm-hmm. est créé depuis 2020 mm-hmm. par une personne très chère à tout le monde de la presse, à commençant par Dada Magazine.
Tout à fait. La promotrice de Light Radio est ma mère. Et donc, voilà.
Ta maman.
Oui, c'est ma maman. C'est ma maman chérie. Et c'est avec grand honneur que j'ai couvert le Thanksgiving de Light Radio. Voilà, c'était
Merci
un grand
Christelle.
Plaisir de
Et tu de équilibres le débat. Il y a quelque temps, tu nous parlais de ton père.
Oui, n'est-ce
Et aujourd'hui,
pas?
C'est ta mère.
Aujourd'hui, c'est ma mère.
Merci Christelle Dico. Dada Magazine, dans les kiosques joliment habillés, mm-hmm. C'est au prix de
1000 francs toujours.
1000 francs CFA.
Oui, toujours.
Pour ce joyau.
Toujours 1000 francs CFA pour ce joyau, parce que ce joyau a besoin d'être dans tous les foyers. Ce joyau fait la fierté de notre pays. C'est un magazine 100% togolais qui met à l'honneur la femme togolaise. C'est pas le prix qui doit freiner, en fait, la pénétration de ce magazine dans toutes les familles et dans toutes les administrations. Il y est déjà, il y est jusqu'à la présidence, à la primature, dans les hôtels, il est partout. Il est partout. Et 1000 francs, vraiment, c'est cadeau. Alors, j'appelle les annonceurs à me soutenir dans cette belle aventure.
Merci, Christelle Dico. Mais tu restes à nos côtés. Oui. Il est 11h29. Sous le coup de 12h, les auditeurs pourront entrer en ligne, chercher à en savoir davantage sur Dada Magazine ou sur les articles que nous allons commenter avec Olivier et Eric. Les deux numéros n'ont pas changé. C'est le 22 21 33 74. Ou le 91 36 63 75. Mais commençons par ces brèves, Olivier. Pendant que nous sommes dans ce studio, par principe, les 91 députés sont convoqués. C'est dans le cadre de l'ouverture solennelle de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Au cours de la journée, nous verrons. Nous aurons le compte rendu de cette cérémonie protocolaire.
Oui, bien sûr. Je crois que c'est en tout cas le calendrier, comme vous l'avez dit, qui demande à ce que la session soit ouverte donc ce jour. Et bon, les députés font leur entrée solennelle et durant toute l'année ou bien durant toutes ces sessions, et beaucoup de choses vont donc être faites par rapport donc aux lois qui vont passer. Donc souhaitons-leur seulement une bonne rentrée, c'est tout.
Nous verrons donc l'agenda de cette session, mais juste rappeler, Eric, que en principe, c'est la dernière session, enfin, la législature actuelle est dans sa dernière année. Ils ont été élus en décembre 2018, donc nous sommes en année électorale. Nous laissons le temps au gouvernement, la CENI, de nous fixer sur la date des prochaines élections législatives.
Oui, effectivement, l'Assemblée doit d'abord faire un travail préliminaire sur les élections, puisqu'il y aura un code électoral. Il y aura.
Nous avons déjà le code électoral.
Oui. Ça, vous savez que à chaque fois que nous allons à une élection, il y a toujours
des révisions
du code électoral. Et donc, ça doit forcément passer par l'Assemblée nationale. Et donc, je me dis, il faut qu'on attende de voir l'agenda de cette section-là pour voir si il y aura révision ou pas du code électoral avant les prochaines élections dont nous tous nous attendons effectivement les dates. Et de l'autre côté, vous savez, quand la SAVE fait sa rentrée parlementaire, il y a des protocoles. Et donc, je crois que il y a des assemblées sœurs, hein, dont des députés sont invités. Et cette fois-ci, nous n'avons pas eu cette information. Nous attendons de voir qui seront là. Parce que dans notre entendement, il y a eu des élections ailleurs. Et forcément, il faut que les nouveaux partenaires du Togo soient là pour l'ouverture solennelle de cette session.
Merci. Pendant que l'Assemblée ouvre solennellement sa première session ordinaire de l'année, la Première ministre représente le Togo depuis le 5 mars à Doha. C'est dans le cadre du 5e sommet des Nations Unies des pays les moins avancés. Victoire Toméga Dogbe, qui représente le Togo, et dans son allocution, nous l'avons rappelé hier, Madame la Première ministre a rappelé les ambitions pour le Togo d'innover et d'être plus agile pour faire face aux crises et accélérer le développement inclusif et durable. Et naturellement, en marge du sommet, la Première ministre a déjà commencé, va continuer à rencontrer des partenaires du Togo. Avec la présence de nos amis là-bas, nous en serons davantage. Et naturellement, nous en parlerons, à moins que Olivier et Eric aient déjà des indiscrétions sur la présence de Victoire Toméga Dogbe à Doha.
Non.
Pas
pour
encore.
Pour le moment, je n'ai pas plus d'informations que ce que tu viens de dire. Sauf que moi, j'ai un petit problème. On dit que c'est la réunion des pays les moins avancés. Mais là, on voit qu'il y a des pays avancés. Qui sont représentés là. Je parle des États-Unis, je parle des pays européens qui sont là. Et puisque tu disais tout à l'heure que Dogbe doit rencontrer des partenaires au développement. Les partenaires au développement, forcément, ce sont des pays avancés et à qui nous tendons tout le temps la main pour nous venir en aide. Mais pourquoi cette présence-là? Moi, je pense que lorsqu'il y a une vraie réunion des pays les moins avancés, que ces pays-là soient là pour discuter de leurs problèmes. Parce que, généralement, ils ont des problèmes communs auxquels ils doivent trouver des solutions. Oui. Mais lorsqu'il y a cette présence-là, parfois on dit, bon, ok, on va voir tes partenaires, on va voir... Non, je pense qu'il faut...
Ça peut poser le débat.
Le débat. Je pense qu'il faut plutôt que ces pays-là essaient de se rencontrer entre eux. Et on parle de relations, de partenariats sud-sud.
Oui, tu as raison. Mais quand les pays les moins avancés choisissent de se réunir à Doha, au Qatar, est-ce que le Qatar est également pays les moins avancés pour qu'ils se retrouvent là-bas? Mais c'est des choses qui nous dépassent.
Non, mais il faut quand même souligner que la rencontre a lieu tous les 10 ans. Et l'objectif, c'est d'apporter un soutien international particulier aux membres les plus vulnérables. Mm-hmm. Donc là, on renie aussi les pays les plus avancés, les plus avancés, si vous permettez le mot, et les pays les moins avancés. Et on plaide, par exemple, au cours de cette rencontre, il y a eu jusqu'à, je sais pas, 1,3 milliard hein, pardon, il y a eu plusieurs milliards plutôt de dollars qui ont été mobilisés. Pour aider
ou des promesses,
ce sont des annonces.
C'est toujours comme
justement,
ça. C'est toujours comme ça. Donc pour aider ces pays les moins avancés mm-hmm. à bénéficier de ces sous là pour pouvoir en tout cas amorcer un tant soit peu des secteurs de développement. Donc ce n'est pas que c'est pas une rencontre qui exclut les pays développés.
Non,
plutôt c'est une rencontre pour échanger et aussi voir comment aider les pays les moins avancés à amorcer leur politique de développement.
C'est des protocoles diplomatiques, mais je constate que quand les pays les plus riches se réunissent entre eux, ils n'invitent pas toujours les plus pauvres.
Bon, pas toujours, mais parfois.
Ils invitent les plus riches. Oui. Bon, c'est peut-être un jeu de vase communicant. Et ainsi, les moins avancés vont s'avancer.
Les pays les moins avancés ne sont jamais invités.
Ils sont invités, certains sont invités. Donnant le Sénégal, entre temps, il y a plein de pays qui sont invités.
Est-ce qu'à ce moment-là, on ne peut pas solidarité, on avance des chiffres là, comme on est en train de faire là, pour aider ces pays. Notre présence est importante.
Peut-être même que c'est d'autres personnes qui financent la rencontre des pays les moins avancés.
Eh oui, donc, comme d'habitude, il ne faut pas s'attendre à
ça. Qui finance a toujours la main au-dessus et le donneur a la main en bas. Ok, peut-être sûrement que Victoire Toubenga Dogbe va rechercher des partenaires qui vont apporter des crédits d'investissement au Togo dans les années à venir. Mais d'ici là, il faut qu'on voit déjà comment est-ce que nous avons géré nos budgets d'investissement ces dernières années. Cela nous amène à cet article de l'Union. Il s'agit d'un audit que la Cour des comptes, cet audit de la Cour des comptes, qui a porté sur les crédits d'investissement au Togo pour le budget 2021. Le constat, c'est une photographie que chacun saura apprécier. Le taux de consommation, généralement, est de 81,09%. Ça, c'est l'ensemble, le global. Mais quand on va dans les détails, certains ministères ont consommé leur budget d'investissement à 100%, mais certains en sont jusqu'à 23,26% seulement. Eric.
Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un budget programme. Ça veut dire que chaque ministère fait ses programmations par rapport à ces projets et donc ces projets sont financés sur le budget de l'État. Je donne par exemple par rapport au budget 2023, mm-hmm. il y a au total 113 programmes qui sont financés à hauteur de 1539 milliards de francs CFA. Mm-hmm. Donc quand vous prenez le budget globalement, 1539 milliards sont détachés pour financer ces programmes-là et soutenir les ministères dans leur fonctionnement. En 2021, cela a également été fait et la Cour des comptes a fait un audit sur l'exécution du budget 2021. Il en ressort, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'il y a certains ministères qui ont consommé à 100% leur budget, leur crédit d'investissement. Mmh. Ça veut dire que tous les projets qui ont été annoncés ont été véritablement exécutés. Encore qu'il faut voir, parce que la Cour émet toujours des réserves par rapport à l'exécution de ces projets-là, si ces projets-là ont eu des impacts directs sur les populations. Mmh. Et de la même façon, il y a des ministères qui n'ont même pas consommé véritablement leur crédit d'investissement. C'est là où on se pose des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi? Parce que c'est ces ministères-là qui ont fait des études de projets et qui ont soutenu ces projets-là au cours du budget année N plus 1. Mm-hmm. Et donc, lorsque vous faites ça, ça veut dire que, logiquement, vous devez consommer ce crédit-là d'investissement pour financer vos projets. Mais pourquoi certains sont à moins de 50% et d'autres sont à 100%?
That is the question. Ben, à l'analyse, on trouve que des ministères comme la communication, les médias, le ministère des sports, le ministère des transports, le ministère des droits de l'homme ont consommé leur crédit d'investissement entre 99 et 100%, c'est bien. Mais à côté, un maître d'école dirait il y a aussi les cancres. Notamment le ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social qui a la queue à 23,26%. Le ministère du plan et de la coopération à 36,18%. Le ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et artisanat 52%. Ministère du développement à la base, de la jeunesse, de l'emploi des jeunes, 57%. Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, 58,2%. Et Olivier, on peut s'étonner que des ministères de développement à la base et enseignement primaire, secondaire jusqu'au supérieur, ces ministères qui ont des besoins colossaux, que ces ministères n'arrivent pas à consommer leur budget.
Oui, on peut s'étonner parce que voilà, c'est peut-être les, comme je le dis toujours, c'est peut-être les ennuis des riches. C'est-à-dire quelqu'un qui a tellement d'argent, bon, il sait pas, il n'arrive pas à les consommer. Mais le paradoxe,
sauf que c'est pas.
Bah, oui, mais le paradoxe, c'est nous sommes dans un pays pauvre et nous avons tellement de besoins. On vous dira que le chantier est énorme en termes de d'éducation, en termes de construction d'infrastructures, mm-hmm. donc
de jeunesse,
en termes de tout, c'est-à-dire que nous avons tout est prioritaire dans le pays. Et au même moment, vous avez des ministères qui ont de la peine à consommer leur crédit. Donc, on n'arrive pas à se l'expliquer. Et ce n'est pas sans date. Le phénomène ne date pas d'aujourd'hui. Peut-être que c'est la Cour des comptes qui met la lumière sur le phénomène maintenant, mais le phénomène date de plusieurs années en arrière. Et à côté de ça, nous avons aussi des partenaires en développement qui ont des crédits à notre disposition. Et à chaque fin d'année, ils rapatrient ces crédits-là parce qu'ils n'ont pas trouvé preneur au niveau donc de l'État, au niveau des ministères. Donc, ce sont des faits réels. Maintenant, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Bon, peut-être nous allons aller donc aux informations parce qu'on dit toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Certainement qu'il y a des explications. Et peut-être quelques débits d'explications, certains m'ont dit que il y a pour certains crédits la procédure de déblocage ou de mobilisation de ces fonds, c'est très long au niveau du ministère de l'économie et des finances, si bien que parfois vous prenez un an, vous n'arrivez même pas à prendre cet argent parce que voilà, les dossiers sont bloqués peut-être à quelque part, quelqu'un qui prend son temps, la procédure, quelqu'un qui doit signer, qui dort pendant des mois avant de se réveiller, de savoir que non, il devrait signer. Donc ça aussi, ça explique cela. Mais quand même, il faut applaudir d'abord le ministère de la Communication et d'autres ministères comme celui des Transports et qui sont arrivés à consommer la grande partie ou la totalité de leur crédit. Mais il y a, on le dit, mais le ministère de la Communication, c'est combien on lui donne, par exemple?
Ah oui.
C'est à peine 80 millions. C'est 80 millions à peine. Ça n'était pas 100 millions. Donc, consommer ça, ce n'est rien. C'est comme toi et moi, on a 1000 francs dans la poche, on sort, on finit ça tout à l'heure. Mais peut-être que ceux qui n'arrivent pas à consommer sont des gens qui ont des milliards, des dizaines de milliards, et qui n'arrivent pas à consommer. Donc, c'est un problème de riches. Donc, lorsque vous n'arrivez pas à consommer, au moins, donnez une partie à ceux-là qui n'ont pas assez. Parce que le ministère de la Communication exprime le besoin d'avoir plus de crédit pour travailler pour nous. Donc, il faut peut-être que s'il y a des ministères qui n'arrivent pas à consommer. Et il y a cette règle-là, je crois, dans l'administration, que lorsque vous n'arrivez pas à consommer une année, alors on vous reprend une partie de ces crédits-là.
Et on donne à ceux qui en ont besoin.
Absolument.
Merci. Alors, autre aspect de la Cour des comptes.
Non, je voudrais juste dire deux choses. D'abord, vous vous rappelez, au temps où le ministre Ayassa était ministre de l'économie et des finances, c'est ses collègues qui se plaignaient tout le temps
qu'ils
n'arrivaient pas à obtenir le budget, et ils parlaient même de budget de fonctionnement dans le temps. Parce que aujourd'hui, en son temps, c'était pas encore le budget programme. Mais aujourd'hui, avec le budget programme, le ministère de l'économie et des finances est obligé de décaisser les fonds pour chaque ministère. Tu parlais du ministère de la communication tout à l'heure. Le budget 2023 pour ce ministère-là, c'est 3 milliards. Tandis que le ministère de l'enseignement primaire et secondaire, c'est 189 milliards. Pratiquement 43% du budget total 2023. Et donc, vous voyez, il y a des priorités. L'État a pris compte de tout ça pour pouvoir affecter ces fonds-là à ces différents ministères. Mais... Maintenant, ce qui se passe, il y a le programme d'investissement public, le PIP, qui prend en compte trois années. Et donc, il est dit clairement, parce que sur recommandation également de la Cour des comptes l'année dernière, c'est que vous ne pouvez plus dire que vous avez des projets et que vous ne consommez pas le crédit affecté et qu'il faut reprendre le même projet l'année suivante. Mmh. Il faut que ça change. Il faut aller d'un projet à un autre. Mmh. Et donc, il y a quand même une structure qui s'occupe de ces fonds-là. Donc, quand vous ne consommez pas, ce fonds-là est directement affecté à cette structure-là. Ça veut dire que l'année suivante, lorsque vous remettez en place ce même projet, ça veut dire que vous avez déjà le financement.
Merci. Oui, mais je me fais porte-parole. Oui, non, c'est dans la même lignée. Oui. Je me fais porte-parole des communes aujourd'hui qui se plaignent parce que les fonds qui devraient leur permettre de fonctionner à partir d'une année, je crois que ça leur s'est débloqué à partir de février ou de mars. Donc parfois, il y a au moins 2 ou 3 mois que certaines communes perdent sur l'année parce qu'il faut attendre les crédits pour pouvoir fonctionner. Et ça vient après janvier ou
sûrement
après février.
Sûrement que la Cour des comptes doit avoir fait des recommandations pour faciliter la faisabilité des choses. Mais revenons à d'autres constats de la Cour des comptes. Oui, la Cour des comptes qui trouve également que pour nombre de ministères, les services déconcentrés de l'État ne sont pas suffisamment impliqués dans la mise en œuvre des projets. Donc, un ministre, depuis Lomé ici, fait une activité dans Yoto et le préfet, le maire, par exemple, ne sont pas au courant. Autre constat aussi, la Cour des comptes dit avoir noté des chantiers inachevés et abandonnés. Mais c'est la conclusion qui retient mon attention.
La conclusion a toujours retenu l'attention.
Oui, le ministère de l'économie et des finances dit avoir pris acte de toutes les recommandations que la Cour des comptes a formulées dans le rapport provisoire et verra à leur mise en œuvre. C'est, disons, l'avis du ministère de l'économie et des finances. Ce rapport, sur ce taudis de la Cour des comptes qui a porté sur les crédits d'investissement 2021. Alors, on peut faire le constat que, selon le rapport de la Cour des comptes, les ministres peuvent avoir une appréciation ou une autre. Suivez mon regard.
Non, mais cette réponse du ministère de l'économie et des finances, c'est lorsque la Cour a envoyé son rapport provisoire pour que ce ministère-là puisse réagir là-dessus. Mm-hmm. C'est en ce moment que le ministère a donné cette formulation que tu viens de citer.
Merci. Nous allons continuer avec cette autre information qui est omniprésente dans les médias depuis hier. Il s'agit du dernier développement du dispositif de la justice militaire. Vision d'Afrique qui rappelle aujourd'hui, par exemple, que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, vient de nommer les magistrats des juridictions militaires. Et l'audience aussi écrit à la page 3, renforcement de l'état de droit, les juridictions militaires dans leur phase opérationnelle. L'Union aussi nous donne des précisions, justice militaire opérationnelle, 7 magistrats nommés, 3 pour la cour, pour le tribunal militaire, 4 pour la cour d'appel militaire. Ça, nous le savons depuis hier, mais la nouveauté, le nouvel élément que tu nous donnes, Eric, c'est que avec ces 7 magistrats ils sont nommés pour juger des cas, dont les 2 cas urgents. Le premier, c'est les terroristes capturés, ainsi que l'assassinat du colonel Toussaint Majoulba.
Oui, ça, vous savez, notre pays est souvent accusé hein, de capturer des terroristes au front, ceux qui viennent nous déranger dans notre pays, et on ne voit pas de justice. On ne juge pas ces gens-là, et le Togo est souvent attaqué sur le plan des droits de ces prisonniers.
Le Togo critiqué.
Oui, par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est des prisonniers qui doivent être jugés et condamnés s'il le faut, parce qu'on les a arrêtés sur le front. Et donc, le pays estime que c'est urgent, d'où même la convocation la dernière fois. Vous vous rappelez, ce qui était une rumeur est devenu clameur aujourd'hui. Mm-hmm. Tout le monde se disait que forcément il y a anguille sous roche, et donc c'est pour ça le gouvernement voulait que l'Assemblée se réunisse en session extraordinaire pour se pencher sur la justice militaire. Mais aujourd'hui, avec l'exposé des motifs par rapport à l'adoption de cette loi à l'Assemblée nationale, on se rend compte qu'il y a également l'assassinat du colonel Madjouba, qui a été assassiné justement dans son bureau par des individus qu'on ne connaît pas. Et c'est dans un camp militaire que cela se passait. Il faut forcément qu'on juge de cette affaire-là. Donc, parce que les députés ont cherché à savoir qu'est-ce qui urge et on veut rapidement mettre en place cette justice militaire. La réponse qui a été donnée, voilà, c'est les deux cas urgents qu'on veut rapidement juger pour se mettre à l'abri de toute critique sur les droits de l'homme.
Merci. Je rappelle que dans quelques semaines, dans deux mois, ça fera trois ans, cette mort brutale et ô combien sanglante, oui, de Madjouba, ça aura fait trois ans. Sûrement que si ce que l'Union annonce se révèle exact, la justice nous situera sur comment ce drame a pu survenir dans son bureau, dans son camp.
Mais la question aujourd'hui est de savoir, est-ce que
Olivier,
il y a des gens qui sont arrêtés dans ce dossier? Est-ce qu'il y a des gens qui sont soupçonnés? Est-ce qu'il y a des coupables ou pardon, des présumés, ouais, donc auteurs de cet acte ignoble? Ça, c'est une question. Nous savons aujourd'hui que le gouvernement, ou bien voilà, donc la justice, pardon, le gouvernement, en moins de quelques semaines, a travaillé, a trouvé des tests et a mettre en place une justice militaire pour notre pays. La question aussi était posée en tant que citoyen, on se demandait qu'est-ce qui urge pour qu'on aille aussi vite donc à l'installation de ces juridictions.
Trois ans déjà.
Non, je ne parle pas de Madjouba, je parle de la mise en œuvre, mise en place de la justice militaire. En moins de quelques semaines, ça a été mis en place. Mm-hmm. Et les tests ont été donc révisés ou du moins adoptés au niveau du Parlement. Donc c'est des questions que je juge et légitime que les populations se posent. Mais encore que si vous faites le lien entre la mise en place de cette juridiction et le crime qui a été commis donc au niveau de l'armée ou contre le colonel Madjouba, on se pose des questions. Est-ce que il y a les coupables ou du moins les présumés et auteurs? Est-ce qu'ils ont été arrêtés? Nous savons bien qu'il y a un général actuellement entre donc les quatre murs de la détention. Est-ce que c'est ce dossier qui le lie? Est-ce que c'est notre dossier? Puisque jusque maintenant, on ne nous a pas encore expliqué les raisons pour lesquelles ce colonel, donc, ou bien ce général plutôt, est en détention. Donc, attendons de voir, mais j'estime que on a droit aussi en tant que citoyen à des explications, à des informations quand la République donc a des remous.
Olivier, tu as raison. Le procès qui est fait régulièrement à nos dirigeants, c'est que ils ne sont pas très bavards sur certaines questions. Notamment, ça a commencé comme des rumeurs, mais officiellement, je ne sais pas si le gouvernement ou bien les forces armées ont informé la mise en détention
officielle. Non, pas du
Beaucoup de silence sur ces questions, si bien que nous-mêmes de la presse, nous sommes obligés de nous contenter seulement d'à côté, nous recherchons les sources officielles qui se font toujours désirer. Mais les réponses à tous ces est-ce que, c'est que le tribunal militaire siège. Et là, officiellement, nous verrons dans l'affaire des terroristes quelles sont les personnes en détention. Dans l'affaire de Majulba, quelles sont les personnes arrêtées, puisqu'il avait été dit que les enquêtes avaient été bouclées. Et bien vivement que le tribunal militaire siège et qu'on voit, n'est-ce pas, Eric?
Il a été dit que cette affaire-là, les instructions ont beaucoup avancé et il ne faudrait pas que ce soit une juridiction civile qui juge de cette affaire-là. Donc, il faut transférer tout ça à une justice militaire parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a également le secret défense parce que ce truc-là s'est passé dans un camp militaire. Et donc, avec tout ça, aujourd'hui, on estime que l'on peut juger de cette affaire-là devant un tribunal militaire.
Vivement que la cour militaire s'ouvre et que nous commencions à trouver des réponses à toutes ces questions qui nous taraudent l'esprit, qui nous turlupinent depuis tant d'années. Nous allons terminer avec la micro-assurance. J'ai suivi les reportages hier et l'Union nous en parle. Un atelier qui est ouvert sur les enjeux, les défis et les perspectives de l'assurance inclusive au Togo. Il s'agit de rendre accessible l'assurance à tous ceux qui sont exclus ou mal desservis ou partiellement servis par les assureurs classiques. Et l'Union nous apprend que actuellement, il n'existe que 3 sociétés agréées pour les opérations de micro assurance, à savoir la Citoyenne Vie, Safe Vie et Sunu Assurance. Sûrement qu'à la fin de l'atelier, on en saura davantage et ainsi l'opportunité sera laissée à davantage de Togolais de se faire assurer.
C'est ce qu'on souhaite puisque selon les enquêtes, sinon les résultats d'enquête de l'UMOA, le Togo a aujourd'hui près de 87% d'inclusion sur les d'inclusion financière.
Oui.
En parlant justement d'ouverture de comptes ou d'approche vers les microfinances et tout ça.
Oui.
Et c'est surtout dans les microfinances que nous avons une forte participation.
Le jeudi dernier, nous avions reçu la ministre en charge de l'inclusion financière, Madame Mazama Esso Assi, qui nous l'a répété et conforté.
Mais sauf que ces gens-là, ils n'ont aucune assurance. Ils n'ont pas d'assurance vie, assurance
maladie
et tout ça. Et donc, on veut permettre à nous tous, puisque peut-être nous-mêmes nous faisons partie. Et donc, on veut nous permettre à nous tous de pouvoir avoir une assurance et pour nous permettre d'assurer nos vieux jours.
Voilà, nous allons terminer avec cette information qui circule sous les manteaux, sur les réseaux, rumeur depuis dimanche. Elle porte sur notre confrère Ferdinand Haïté. D'abord, nous avons dit depuis vendredi, répété hier, qu'il a reçu une citation directe. Lui, Isidore Kouonou, et même notre feu confrère Joël Ega, à comparaître demain dans l'affaire d'outrage qui les oppose au ministre Adjei et à Gbetome. Mais la rumeur court que Ferdinand Haïté serait porté disparu depuis dimanche. Et on ne peut pas parler, on ne peut pas affirmer, être au propre de la presse et ne pas en dire un mot. Alors Olivier Adja et Eric, encore une fois je dis, c'est circulent sous les manteaux. Je n'ai pas reçu d'informations officielles d'une organisation de presse, ni encore moins officielle. Moi-même, depuis hier, j'essaie de contacter Ferdinand en vain. Mais est-ce que vous en savez quelque chose? Est-ce que vous en sauriez quelque chose, vous? Eric?
Non,
nous n'en savons rien. Nous avons aussi appris, comme vous, par un message de son rédacteur en chef, le rédacteur en chef du journal Alternative, Isidore Kouonou, que depuis dimanche dernier, Ferdinand a été devrait répondre à une nouvelle convocation donc du SCRIC, et il était sorti donc à 9h pour des courses et avant ça, et puis voilà, donc il n'est plus joignable.
Oui.
Il n'est plus joignable, donc d'ici là, bon, il est toujours donc recherché. Et nous allons aller plus aux informations pour savoir qu'est-ce qui se passe et savoir où le chercher, si on peut le dire ainsi.
Et ceci, pouvoir expliquer cela, le journal L'Alternative n'a pas paru aujourd'hui. Eric, alors
c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Nous pensions que cette affaire-là était déjà close depuis. Et malheureusement, ça rejaillit. Et notre confrère est porté disparu. Porté disparu, je pense que le mot est un peu très fort. Il faut juste dire que...
Disons qu'il est introuvable depuis dimanche. Introuvable
depuis dimanche, oui. C'est l'information que nous tous nous avons reçue. Et personnellement, j'ai cherché à savoir. Je ne savais même pas qu'il était convoqué. Mm-hmm. Et donc, c'est par rapport à sa disparition que j'ai eu l'information qu'il a été. Et je ne comprends pas. Joël, les gars, paix à son âme, il n'est plus là, mais il paraît qu'il est aussi convoqué.
Oui. Ça veut dire demain. Comme j'ironisais vendredi, demain, on va voir. Si Joël Le Gars aurait obtenu une autorisation pour sortir de là où il est depuis un an, venu répondre à la convocation de ceux qui l'ont convoqué, on verra bien. Un peu de bonne humeur quand même, hein, qui ne déroge en rien au sérieux avec lequel nous évoquons les cas de nos confrères et que nous traitons de leur nom. Parce que d'un Ferdinand à un Olivier ou bien à un Eric ou bien à un Sasgaou, il n'y a pas de frontière, n'est-ce pas? Eh bien, il est 12h, passé de quelques instants. Nous marquons une pause et nous rebondissons bientôt avec les auditeurs.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous avons parlé de la célébration de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Nous avons beaucoup commenté le journal numéro 24 du Dada Magazine. On a parlé de l'actualité sociopolitique au Togo. L'Assemblée nationale qui est en ouverture solennelle pour sa première session ordinaire de l'année. La première ministre qui se trouve à Doha. Et puis quelques sujets de l'actualité ici au pays. Sûrement que l'un ou l'autre sujet vous a intéressé. Premier auditeur en ligne, bonjour.
Oui, monsieur Sass, bonjour.
Oui, Sylvain.
Oui, c'est Sylvain. Sass, on dit souvent le ridicule ne tue pas. Mais qu'on sache que le ridicule ridiculise. Et ceux qui n'aiment pas les critiques sont qualifiés de lâches. Bon, pour Daga Magazine, je la félicite et je l'encourage.
Mm-hmm.
Et félicitations, madame.
Ok, mais Sylvain Abayi qui félicite Daga Magazine
pour voir s'il y a des mensonges qui sauvent des couples et des mensonges qui détruisent pour toute la vie des couples.
Ok.
Et puis ces histoires des enfants de Rissa, pas plus tard qu'hier, 20 heures moins, il y a ces enfants qui sont au feu rouge, au feu tricolore de GTA. Franchement, il faut qu'on fasse quelque chose. 20 heures moins. La scène, il voulait nettoyer la moto de quelqu'un. Bon, le gars lui a dit de ne plus le faire. Il s'écarte un peu et puis il se met au garde à vous, comme les corps habillés. Tout juste pour demander à manger.
Merci.
Franchement, ça m'a fait pitié, franchement, il faut qu'on fasse quelque chose.
Merci beaucoup, Sylvain Agbayi. Daga Magazine, comme tu le souhaites, tu le trouveras un peu partout, hein, à un prix de 1000 francs CFA. Thomas, deuxième auditeur, bonjour. Allô, l'ami en ligne. Allô.
Allô.
Oui.
Bonjour.
Bonjour.
C'est Commis.
Commis.
Aussi, je tiens à féliciter la dame.
Oui.
Elle est exceptionnelle. Avoir tout le travail qu'elle a sur le côté de la presse. Mm-hmm. J'aimerais lui demander si c'est possible qu'elle puisse travailler avec les associations féministes pour conjurer l'aspect festif du 8 mars. Parce que je trouve que le genre féminin a assez de problèmes pour pouvoir travailler là-dessus que de fêter le 8 mars. Quand je parle de problème de l'emploi, on exige à ce que les jeunes filles puissent à ce jour continuer à écarter les gens avant de se faire employer. Quand je prends le partage des richesses ou bien des héritages,
oui.
La femme a des problèmes. Quand je prends la question des désengorgements des voies publiques, les marchés, il y en a tellement de problèmes. Mais quand on se retrouve à des journées comme ça, la femme qui a fait des problèmes continue pas à fêter, réclame les cadeaux de la fête. Je ne sais pas si vous pouvez travailler là-dessus.
Merci.
Oui. Oui, je pose une question à votre journaliste qui a parlé du tribunal militaire.
Oui.
Que c'est sur les captures des terroristes et des questions de Majuba.
Oui.
On a précipité les donnes. Sur la question des captures, jusqu'à ce jour, je n'ai pas appris qu'on a capturé un terroriste. On est arrivé la dernière fois, il y a une vidéo qui a circulé sur la toile où des populations brûlaient des gens, soi-disant des terroristes. Ou bien on voulait parler des aspects politiques qu'on a eu à mis en passé dans les années 2017-2018. On nous montrait des gens avec des amulettes qu'on disait que c'était des terroristes en ce temps-là.
Merci. Eric va vous donner des éclaircissements sur votre question. L'auditeur suivant, bonjour.
Bonjour, mon directeur.
Oui, Papa Sibiti.
Ah, bonjour les autres aussi.
Oui.
Je ne sais pas, vous êtes mon papa. Je suis votre papa, vos papas. Je ne sais pas si vous allez me critiquer avec les autres Togolais. Vous savez, les problèmes qui se posent maintenant, c'est le gouvernement. Le président est là. Il faut que nous cessions cette affaire de comment cours des comptes. Mes directeurs, mes enfants, nous avons autre chose à faire. Parce que aujourd'hui c'est ça, demain c'est ça, c'est comme... En France, on disait, ça s'en va, ça revient, vous revenez.
Non, Papa Sibiti, aujourd'hui, hein? Nous avons parlé d'un autre rapport de la Cour des comptes. Hein. Aujourd'hui, la Cour des comptes a audité le budget d'investissement de tout l'État togolais en 2021. C'est de ça que nous avons parlé aujourd'hui.
Ah, excusez-moi.
Ok.
J'ai cru que c'est l'autre, parce que...
Non, c'est pas l'autre.
On ne trouvera pas de réponse à cette. Il faut classer cette affaire et faire face aux djihadistes, au chômage et autre chose pour que nous puissions applaudir. Merci beaucoup.
Je vous en prie, Papa Sibiti. Donc, d'un rapport à un autre, hein, que la précision soit bien nette, aujourd'hui, nous avons parlé de l'audit de la Cour des comptes sur le budget d'investissement du Togo en 2021. L'auditeur suivant, bonjour.
Bonjour, je suis
Oui.
C'est Lucien.
Lucien.
Oui.
Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît?
Le Conakry.
Ok, nous écoutons Lucien.
Vous avez parlé que, bon, on est en année électorale.
Oui.
Moi, je voulais juste demander à quand les élections groupées.
Les élections?
Groupées, groupées.
J'entends mal.
Bon, je donne un exemple. Pourquoi ne pas couper les élections au Togo?
Ah, ok, ok.
Disons, dit que nous sommes un pays pauvre. Les pays riches font des élections groupées.
Ok.
Vous me comprenez?
Non, maintenant, je vous suis.
Oui, donc moi, je plaide pour les élections groupées.
Merci. Je rappelle qu'en 2023, nous devrions avoir les élections législatives et les élections régionales. Est-ce qu'on peut les coupler ou les faire l'une après l'autre? C'est les prérogatives du gouvernement et de la CENI. Mais nous verrons bien en temps opportun. L'auditeur suivant, bonjour.
Allô?
Oui.
Bonjour, mon patron.
Ah, Patrick.
Mon commandant.
Oh, doucement, hein, nous sommes. nous sommes seulement au club de la presse.
Ah oui, je sais, donc. Comment allez-vous?
Ah, nous rendons grâce à Dieu.
Merci. Je salue les autres aussi. Hein.
Mm-hmm.
Monsieur Sass.
Oui.
Ouais, ben, vous savez, moi, la réunion dont vous avez fait cas où la première ministre est en train de participer à Douala.
Oui.
On dit que c'est les pays moins développés, mais n'est-ce pas qu'ils se réunissent là-bas, non?
Oui.
Pour, actuellement, nous parlons hein, de la modernisation, de l'évolution de l'éthique. Mais pourquoi ne pas organiser cette réunion-là par visioconférence? Hein, pourquoi je dis tout ça là? Imaginez, la première ministre est allée là-bas avec toute une délégation. Et c'est des frères. Et ce n'est pas le seul pays. Mais au même moment, on dit que c'est des pays moins développés. Mais pourquoi ne pas faire ça en visioconférence? S'il y a des décisions, s'ils veulent nous aider, ben, ils n'ont pas à nous aider à 100%. Les déplacements là, même si c'est eux qui financent le déplacement des délégations, on pouvait quand même, l'argent là pouvait quand même servir à faire quelque chose dans le pays. Ça c'est un. De deux, j'aimerais, M. Sass, entre vous et nous, qu'on comprenne quelque chose et qu'on félicite. Ben, vous ne nous permettez pas de donner des cartons, mais aidez-nous à féliciter au moins deux institutions de notre cher pays qui font un boulot vraiment très très remarquable. Je veux parler de la Cour des comptes et de l'ARCEP. Vous voyez, simple rapport qui est sorti, vous voyez comment ça fait gaffe hein, dans le pays au niveau de la Cour des comptes. Au niveau de l'ARCEP, vous voyez maintenant quand il y a des perturbations au niveau de Timoni et de quoi, je ne sais pas, vous voyez comment maintenant les communiqués sortent pour nous dire que voilà, de tel mois à tel mois des perturbations, donc dans un moment ou l'autre, le rétablissement serait effectif. C'est ça que nous voulons. Vous voyez, ça nous voulons. Et pour finir, M. Sass,
oui.
Vous avez l'habitude de nous dire qu'on doit suivre l'émission du début jusqu'à la fin avant d'intervenir. Je veux parler à notre grand frère qui a l'habitude d'appeler M. Papa Zimiti. Vraiment, ce qu'il a évoqué, c'est vrai que vous n'avez pas fait cas aujourd'hui, mais si à son niveau, il voit que la Cour des comptes, ce qu'il a fait et que tout le monde crie chez lui si c'est bon, alors tant mieux. Mais vous l'avez recadré, c'est ça qui est bon aussi. Bonne émission à vous. Allô,
non, Patrick, il y a aussi d'autres qui attendent. Hein, je sais que vous êtes très gentil avec tout le monde. Nous prenons le suivant. Bonjour.
Bonjour, monsieur Sass.
Oui.
Oui, c'est vrai, pas ça, du
monde. Depuis Amoussivé.
Ben oui, depuis Amoussivé.
Oui.
Voilà, mon remarque est que si quelque chose concerne ou bien qui touche directement la population, le peuple, on l'applique immédiatement. Mais je crois le tribunal militaire qui vient d'être nommé par le chef d'État, c'est-à-dire les magistrats que le chef d'État a nommé tout récemment
oui.
Pour le tribunal militaire.
Oui.
C'est depuis la conférence nationale qu'on a dit de créer ça. Mm-hmm. Ou bien là, c'est depuis la constitution de 1992
oui.
Qui a dit ça. Mais est-ce pourquoi c'est maintenant qu'on essaie de créer ou bien parce qu'on n'a pas trouvé quelqu'un pour juger avant ou bien pourquoi? Merci.
Papa Sadine, mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? Il y a un autre auditeur en ligne. Oui, bonjour.
Allô?
Oui.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour. Oui. Je salue le plateau.
Nous vous saluons en retour.
C'est Désiré, Tocoin Trésor.
Désiré depuis Tocoin Trésor.
Ah oui.
Eh bien, nous vous écoutons.
Bon, moi j'interviens pour les enfants de la rue.
Mm-hmm.
Il y a un cas que vous avez oublié. Le matin, prenez votre engin ou votre voiture allant au boulot. Ce matin, déjà à 7 heures, au niveau des feux rouges, vous allez voir des femmes bien en forme qui prennent des enfants au bras de qui on a mis du. On met des seringues sous forme de celui qui vient de l'hôpital.
Oui.
Et ils sont en train de passer au milieu des voitures en train de quémander de l'argent.
Oui.
Alors que ces dames, lorsque vous les voyez, c'est des dames en forme, bien en forme.
Mm-hmm.
Et ces phénomènes se perpétuent un peu partout au niveau des feux rouges, surtout oui. Les matins très tôt.
Oui.
Donc c'est un cas que, bon, si l'autorité peut quand même essayer de régulariser, ce serait bien pour le bien de ces petits-enfants qu'elles portent et pour eux-mêmes leur sécurité.
Merci. Merci beaucoup. L'ami Désiré. Ah, j'espère que notre ami Désiré va être plus régulier à nous appeler. Nous allons prendre le dernier auditeur aujourd'hui. Bonjour.
Ah, merci, c'est commis de retour.
Ah, commis.
Oui, moi aussi je tiens à féliciter la Cour des comptes. Mmh. Je viens de constater que ça fait seulement 100 pages. Donc nous autres aussi, nous allons parcourir mmh. et dans les émissions, on va y parler.
Voilà.
Monsieur Sainz, oui. ce qui m'a fait froid au dos, c'est la question de Ferdinand. Jusqu'à présent, moi aussi je viens de constater, on a confirmé qu'il n'est pas la région. On demande à toute bonne volonté qui sait là où il se trouve de se prononcer.
Merci. C'est une alerte que nous lançons hein, pour notre cher ami, notre cher confrère Ferdinand Messaïté.
Oui, parce que ne pas le faire, ça rime encore avec le musellement de la presse. Ceux qui ont l'amour de ce pays, ils donnent leur version à partir de vos médias. On ne doit pas les frustrer.
Merci.
Et quand quelqu'un vous frustre, c'est pas bien.
Espérons que cette alerte hein, va nous donner des informations sur la présence, surtout la sécurité de Ferdinand. Il y a un tout dernier auditeur qui insiste. Ok. Merci à vous, chers amis, qui avez pu entrer en ligne. Alors, Christelle, très rapidement, l'ami Komi qui vous demande si vous avez, si vous êtes des partenaires pour conjurer l'aspect festif de la célébration du 8 mars. Vous avez longuement parlé, mais cela vous est revenu.
Oui, justement. Alors, qui suis-je pour conjurer l'aspect festif du 8 mars? Je ne pense pas que je porterai haut ce flambeau, c'est sûr. C'est vrai que je fais parfois appel à des associations féminines pour des conseils par rapport au magazine, mais nous n'avons pas encore abordé l'aspect festif du 8 mars. Pour moi, c'est très subjectif, comme je dis, mais vraiment libre à chacun de célébrer le 8 mars à sa manière. Pour certains, c'est vraiment un moment de réflexion. Mais pour moi, comme je disais tout à l'heure, on a acquis des droits. Depuis cette déclaration des droits de l'homme pour la femme, pour la lutte pour les droits de la femme, depuis le 18e siècle, je crois, on a fait du chemin. On a fait du chemin. Et il n'y a pas très longtemps qu'en Afrique, les femmes ont pris conscience qu'elles, en tant que femmes, elles avaient des droits, elles avaient des voix à faire entendre. Et si on a pu passer par l'uniforme et par la fête pour les rassembler, je pense qu'il faut leur donner ce petit moment de joie. Si une fois au moins dans l'année, elles sont célébrées dans leur maison, parce qu'elles sont femmes, elles sont mères, je pense qu'il faut leur laisser ce petit droit-là. Ce qui n'empêche rien à la réflexion. Merci. Alors, je ne pourrais pas abonder dans le sens de l'auditeur. Et comme je disais tout à l'heure, qui suis-je pour abroger cela? Mm-hmm. Mais non, laissons ce moment-là non, à la femme et qu'elle puisse en faire ce qu'elle veut.
Hein. Même le plus oui. pauvre aussi peut oui. s'offrir des moments oui. de plaisir, de
oui,
bonheur.
Oui, de bonheur ce jour-là.
Je ne sais pas si tu peux lever.
Un peu.
Au Grand Abéré. Notre condom du Baré Tachan, où on a tabasé.
C'est compliqué.
Hein? Nyawa.
Dans les moments de souffrance, on peut quand même s'accorder
oui, un, voilà. tout
un peu de moment
un tout petit
de plaisir.
Et si puis les vous femmes, savez, oui, les femmes. Et vous savez, notre affaire d'uniforme, là.
Jour,
notre affaire d'uniforme, c'est quelque oui. chose de sacré. C'est-à-dire que c'est, on n'imagine pas ce que ça représente pour une femme oui. de porter ce pagne ce jour-là. C'est comme si elle appartenait à une communauté. C'est comme si elle s'alliait à un autre groupe de femmes pour une cause qu'elle Merci. Ne maîtrise peut-être Merci. Pas, mais qui est là. Et celle
qui va enchaîner avec la problématique des enfants de la rue, surtout avec le développement que l'ami désirait partager avec nous, des femmes mm-hmm. apparemment bien portantes, oui. mais qui font circuler des enfants avec des tubes.
Et des ordonnances.
Et des ordonnances mm-hmm, mm-hmm. exposant un peu
seringues,
les enfants ouais. à des risques.
Oui, exposant. Non, moi, pour moi, ça devient un fléau, vraiment. Ça devient sérieux, cette histoire-là. Il faut vraiment interpeller les pouvoirs publics pour qu'ils fassent quelque chose. Mais comme je le dis toujours, et c'est peut-être un cœur de mère qui parle, c'est des solutions. Il faut trouver des solutions. Il y a un sérieux problème. Je ne pense pas qu'un parent qui décide ou qui voit son enfant dans la rue en est fier. Est-ce que c'est peut-être parce qu'il n'a plus le choix? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Je pense qu'il faut vraiment se concerter pour trouver des solutions à cela, parce que à ce rythme-là, on aura de sérieux débordements.
Merci Christelle. Eric
Je voudrais rapidement dire par rapport à cette histoire des enfants de la rue.
Oui.
Vous savez, et je constate hein, qu'il y a ce phénomène-là qui est arrivé chez nous. Vous savez, au Sénégal, il y a les enfants qu'on appelle les talibés, qu'on retrouve dans la rue tous les matins et qui repartent le soir. Mais ce sont des travailleurs pour des gens. ces enfants-là viennent quémander et le soir.
Ce sont les élèves des écoles coraniques.
Coraniques. Et ces enfants-là retournent le soir pour remettre leur butin à leur mentor. Je crois que c'est ce qui se passe aujourd'hui chez nous également. Je n'ai pas la certitude, je continuerai pas à fouiller là-dessus.
Un auditeur a voulu savoir un peu plus sur les terroristes arrêtés.
Vous savez que depuis un certain temps, l'État togolais a décidé de ne plus communiquer sur ce qui se passe, les événements au front avec les djihadistes, les terroristes et tout ça. Et donc, c'est l'État togolais qui a donné cette réponse aux députés lors de l'adoption de cette loi sur la justice militaire.
Merci. Olivier, un auditeur est revenu sur le travail que lui salue de la Cour des comptes et de l'ARCEP et d'autres. Disons seulement que ce sont des institutions ou des instruments que le Togo a pensé pour réguler l'action publique. La Cour des comptes, enfin l'ARMP, maintenant l'ARCOP, la CEP et bien d'autres, ce sont des instruments du Togo pour que le Togo régule et regarde comment nous sommes gouvernés au jour le jour et ce qu'il faut améliorer.
Non, c'est vrai, je crois que ces institutions ne font que leur travail. On n'a pas besoin de les applaudir. Mais lorsqu'on sait que voilà, donc, ce travail-là, parfois, est vivement attendu et ça ne vient jamais, alors quand ces institutions font bien, il faut les encourager à continuer. Avec la Cour des comptes, vous avez vu comment le dossier évoluait et même il nous a paru un peu bizarre qu'il a semblé que certains membres du gouvernement s'en sont même pris à la Cour des comptes par rapport au travail. Nous voulons quand même que les institutions fonctionnent et que voilà donc qu'il y ait le débat entre les institutions et ça pour que la démocratie commence par prendre donc racine et ce n'est que bien pour notre pays.
Merci. Un autre a souhaité, si on peut coupler pour cette année 2023, les élections législatives et régionales qui sont annoncées.
Non, vivement, parce que vous avez le Grand Nigeria, et la dernière fois, il y a eu 3 élections donc qui étaient couplées, les présidentielles, les sénatoriales et je crois les législatives. Donc, et bon, ça a été bien et les résistants sont sortis à temps, donc le Togo aussi peut le faire pour économiser beaucoup d'énergie et d'argent.
Justement, en matière, occasion pour économiser, si on peut faire les sommets, les conférences en visioconférence pour éviter que et la première ministre ou bien le chef de l'État ne dépense pas un peu trop notre argent pour aller d'un pays à un autre.
Bon, peut-être, mais c'est selon. Vous avez vu le ministère de la Culture. Il y a eu une invitation, donc et le ministère a dit qu'il n'y a pas de moyens donc, pour envoyer des littéraires. Bon, c'est ça, c'est pour économiser aussi, mais je crois qu'il y a parfois il y a besoin que voilà donc on se déplace aussi parce que quand vous êtes loin, vous êtes devant votre écran, ce n'est pas toujours comme si vous étiez présent donc à la conférence.
Merci, le virtuel c'est bien, mais la chaleur humaine, c'est toujours une chose. Ce que Olivier a évoqué, nous avons appris avec beaucoup de douleur que le Togo qui a été invité à une manifestation de livres en Guinée et que le ministre Lamadoukou a décliné, qu'il a des contraintes budgétaires, tout comme nous découvrons que si le Togo n'a finalement pas été l'invité d'honneur au FESPACO, c'est que le Togo n'aurait pas proposé d'argent pour honorer sa place. Ça gêne un peu quand même. Ça gêne un peu.
500 millions quand même.
Est-ce que nous cultivons un peu le complexe du pauvre millions. Est-ce que nous nous complaisons à dire aux autres que nous sommes pauvres?
Mais il y a aussi le FEMUA ou le Togo.
Merci.
Nous
allons terminer par le carton de fin d'émission. Olivier Yao Adja.
Oh, je sais pas du carton. Je vous souhaite tout simplement une très belle journée et une semaine agréable.
Une bonne fête du 8 mars à ta femme.
Absolument, c'est très important. Une belle fête, de 8 mars aux dames.
J'aurais bien aimé souhaiter une bonne journée du 8 mars aux femmes ambassades. Mais je passe la parole à Eric Johnson pour ton carton de fin d'émission.
Oui, je m'en voudrais si je ne donnais pas un carton vert à notre compatriote qui va présenter une pièce théâtrale à l'IFT, l'Institut français du Togo, le 19 mars prochain.
Oui.
Il s'agit d'une pièce qui interpelle surtout nous les hommes. Pourquoi ? Parce que elle met en exergue trois femmes qui sont concubines, qui ont épousé le même homme. Mm-hmm. Cet homme qui décède et ces trois femmes se retrouvent au cimetière devant le tombeau de leur ex-mari qui jubile. Quand les gens vont au cimetière, c'est pour aller prier pour le repos de l'âme de leur
disparu.
Mais ces femmes étaient en joie pour que plutôt cet homme-là, son âme ne repose pas en paix. Allez-y savoir.
Les sœurs d'ange, trois concubines qui allez-y jubilent savoir. À la mort du compagnon commun. Christelle Dicot, ton carton de fin d'émission.
Mes cartons verts à toutes les femmes. C'est votre semaine, c'est votre mois. C'est notre mois de mars. Célébrons-nous et prenons conscience des acquis que nous avons eus depuis très longtemps et continuons de nous battre et de réfléchir pour de meilleurs lendemains pour la femme.
Voilà. Merci. Le club La Presse qui dessine un carton vert à femme, aux femmes. Nous avons fait un pari de recevoir une femme tous les jours de cette semaine. Hier, nous l'avons fait. Nous le faisons aujourd'hui. Nous prions que nous puissions avoir une femme demain, une femme jeudi et une femme vendredi. Aidez-nous à tenir notre pari, mesdames les femmes. Rendez-vous demain mercredi à 11h.
Car la beauté de l'âme reste cachée.